Et la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein à votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de la littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette 49e émission de Par le bout de la lorgnette sur des échanges de livres, un concept simple. Chaque chroniqueur a choisi un livre ou deux de sa bibliothèque, voire trois à faire partager à d'autres chroniqueurs de cette émission. Bien entendu, personne ne connaît les livres des autres et personne ne sait à qui le livre appartient. Nous allons d'ailleurs essayer de le découvrir dans cette émission. Bonjour Héloïse.
Bonjour.
Ai-je été clair dans mon explication ?
Oui, je pense que c'est limpide.
Merci beaucoup Héloïse. Tiens, mais Popo est là. Salut Popo.
Coucou tout le monde.
Alors, comment ça s'est passé, tes vacances, tes voyages scolaires, etc.
C'était génial. Je me suis éclatée, ils sont éclatés, c'était top.
Alors Valérie a super bien vendu ton livre il y a deux semaines.
J'ai écouté, ça m'a fait plaisir parce que c'était vraiment génial.
Ça avait l'air très très bien rescapé.
Et elle est là, notre grande conteuse lozérienne. Salut.
Bonjour.
Valérie. Bon, t'es au point là pour la semaine prochaine ?
Alors, est-ce que je suis au point ? Non, mais je vais l'être.
C'est ça les artistes, de toute façon.
Ça,
c'est comme les archis, on travaille au dernier moment, on est charrette.
Le problème, c'est que je travaille depuis longtemps et je ne suis pas sûre des choix de compte que j'ai fait.
D'accord, on en parlera si tu veux après l'émission.
Avec grand plaisir. Hein,
autour d'un verre d'eau.
N'est-ce pas ?
Voilà.
De Kézac, bien sûr.
De Kézac. Elga, qui n'avait rien compris au principe de cette émission, vu qu'elle a amené un livre à Héloïse il y a deux jours, elle est là aussi.
C'est pas
Elga.
Vrai.
On dit bonjour.
Non, c'est pas vrai, c'est que vous avez fait l'échange et après Héloïse m'a dit: ah, mais on l'a fait et tout, si tu veux, ramène un livre. Donc
tout
voilà.
C'est de ma faute.
Ah, mais bon. J'ai pioché des livres dans la caisse, quoi. Donc
ouais.
C'est bon.
Qui étaient bien.
Un oui, l'autre, bof.
D'accord. Héloïse, tu as trois livres à nous présenter. On va te laisser commencer cette émission.
Oui, alors j'ai pioché un livre de poche que j'avais chez moi, mais que je n'ai jamais lu.
C'était
l'occasion, effectivement, de le lire. Donc, c'est le journal de Kurt Cobain.
On se fameux, demande bien de qui ça peut être.
Le fameux chanteur de Nirvana. Alors, effectivement, je pense que c'est Ludo.
C'est moi.
Ah.
J'ai essayé de brouiller les pistes ce matin.
Un point pour Héloïse.
Ça n'a pas marché. Ah ouais, on va compter en points.
Bah oui, grave.
Bah pourquoi c'est moi, t'aimes bien Nirvana, Popo ?
Je sais pas si j'aurais lu une biographie de Kurt Cobain, mais...
C'est pas une biographie, attention, c'est son journal, son journal intime.
Chez 10-18.
Chez 10-18, voilà, donc vous connaissez effectivement tous, je pense, Kurt Cobain, le chanteur et guitariste emblématique du groupe Nirvana, un groupe de Seattle des années 90. Non, 80.
90.
Ça s'est fini en 94, on va dire.
Ouais.
Originaire, oui, d'Aberdeen, pas de Seattle, aux États-Unis. Donc Kurt Cobain, personnage emblématique et très torturé, on le connaît parce qu'il s'est suicidé très jeune, il est mort en 94, il avait...
33
Non,
27.
Il était beaucoup plus jeune.
Ouais. C'était pas le club des 27
Je sais pas non, si l'on faisait partie.
Non, il 33, avait 24 ans.
24 ans, ouais. Il était en avance.
Hein. Donc oui, voilà. Donc on le connaît pour ça. En fait, ce qu'on sait peut-être pas, c'est qu'il n'a cessé d'écrire pendant toute sa vie. Il écrivait déjà très jeune quand il était ado. Et il prenait des notes à longueur de temps, dans l'avion, à l'hôtel, après les concerts, avant, même chez lui. Voilà, c'était un travail constant d'écriture. Et donc ce livre nous propose une sélection, parce qu'il y a certains journaux de Kurt Cobain qui ont été perdus, une sélection en fait de ses écrits.
Et dessins et BD.
Voilà, donc j'y viens.
Pardon,
t'inquiète
excuse-moi.
Pas, je vais bien parler de ton livre, Ludo.
La chance est calée, mais...
Détends-toi.
Donc on y trouve des chansons, des lettres jamais envoyées, des réflexions sur la politique américaine, la drogue, les médias, le milieu de la musique. On y trouve des poèmes, mais également des dessins et des BD. Donc c'est une plongée assez troublante dans un univers vraiment, totalement à part en fait. C'est l'univers d'un jeune esprit vraiment foisonnant, incompris peut-être, et perturbé sûrement. Il est assez difficile d'entrer dans cet univers dans un premier temps. Moi je te le dis, j'ai eu un peu de mal sur les premières pages, parce que bon, je connais Nirvana, mais je ne suis pas une experte non plus. Et j'ai buté sur quelques références, sur des noms, etc. Quand on ne connaît pas le milieu de la musique underground à Seattle, c'est un peu compliqué au début. Mais cependant, au fil des pages, on se laisse bercer en fait, par ce maniement assez incroyable des mots. C'est vraiment unique, c'est très sensible et c'est trash aussi parfois. Donc c'est hyper intéressant, c'est très touchant parce qu'on ressent vraiment la détresse profonde et la rage absolue qui habite ce jeune homme en fait. Et donc moi ça m'a extrêmement touchée. On ressent aussi une grande intelligence, un esprit brillant qui s'est perdu dans la drogue et qui d'ailleurs le regrette parce que dans les dernières pages en fait il évoque en fait ses addictions avec beaucoup d'amertume. Et j'ai l'impression qu'il n'a pas su comment gérer effectivement toute cette souffrance. La drogue a pu être un échappatoire, mais on se rend compte à la fin que, bah non, en fait. Le dernier texte, il a été écrit un mois avant sa dernière tentative de suicide qui a réussi. C'était donc le 5 avril 1994. Voilà. Donc le texte... pardon. Donc j'aimerais beaucoup vous lire quelques extraits parce que pour se rendre compte en fait du style qui est assez unique, même si je pense que la traduction des fois pour les pauvres traducteurs a été un peu difficile parce qu'il y a beaucoup de jeux de mots, beaucoup de maniements qu'on ne peut pas comprendre, mais il y a pas mal de notes de bas de page en fait qui nous expliquent tout ça. Donc je vais vous lire des extraits en sachant qu'il y a une telle diversité de tons, d'humeur, de prose que ça ne sera pas représentatif de toute la diversité de cet ouvrage, mais ça pourra vous donner une petite idée, je pense. Alors, le premier texte que je vais vous lire, ça s'appelle « Bavons sur le prog rock », donc le rock progressif. Des tonnes de participes présents, plein de mots qui se terminent en « an ». Comme masturbant, exagérant, machant, mâchonnant, une plantureuse matrone hippie à gros seins assise dans les bois de Nottingham dans le brouillard du petit matin, écoutant Stairway to Heaven en enfilant des perles, pas en se maquillant, en rythme des bulles sortant des tempes d'Aquaman, jaillissant d'un collier en cristal, le cou étranglé par des cordes de piano, j'ai des amis sur la terre et dans les cieux, et la mère, monsieur français, je barbote car je suis devenue un minuscule elfe dansant maître Zéphyr de la flûte de Pan. Voilà, donc comme vous pouvez constater, c'est très poétique.
Voilà, il a toujours été fan de Ginsberg, de Burroughs, de toute cette génération beatnik, mais côté poésie. Hein. D'ailleurs, il avait écrit un scénario de clip pour une de ses chansons avec Burroughs, William Burroughs, qui était un gros héroïnomane qui a écrit Le Faste à Nu.
Et un grand auteur.
Un grand auteur. Et il y a un clip, je ne sais pas si on le retrouve dedans, un scénario de ce clip où il crucifie Burroughs sur une croix. Enfin, c'est un truc totalement dingue. Mais bon.
Et là, il parle de Stairway to Heaven, donc de Led Zeppelin, si je ne me trompe pas. Et il parle aussi d'autres groupes.
Oui, il parle de plein de groupes. Ouais. Il parle beaucoup de ses influences. Par exemple, il parle aussi de son enfance. C'est aussi un peu comme un journal intime à proprement parler. Il parle de ce qu'il a vécu quand il était enfant. Et par exemple, il explique que sa tante lui avait offert 3 vinyles des Beatles. Et il la remercie pour ça, parce que sinon...
C'est un grand fan des Beatles.
D'accord. Voilà. Ouais. Il parle des Beatles, de plein de choses.
Ce livre, il commence par une phrase qui est « Ne lis pas ce journal quand je serai parti ». Voilà, il avait ce journal intime et il marquait dessus pour Courtney Love ou peut-être sa femme d'avant, parce que je crois qu'il était marié ou en concubinage. C'était vraiment quelque chose qu'il ne voulait pas... qui sortent de sa sphère à lui, même pas la sphère privée, de sa sphère à lui, et qui par la suite a été publié, parce qu'on voit toute... On parle toujours de la sensibilité des artistes. Pour être un grand artiste, on sait que c'est des gens sensibles, c'est des éponges qui absorbent tout ce que la société donne, en bien ou en mal, c'est des gens torturés. Mais grâce à ce livre, on rentre vraiment dans cet être-là, pour le meilleur et pour le pire, et c'est ça qui est vraiment extraordinaire.
C'est vraiment fascinant. Je peux vous lire juste un dernier extrait montre qu'il est plus dans le mode écriture de journal. Il parle de lui-même, il parle à la première personne. Donc, j'ai maintenant atteint ma phase triste. Avant, c'était de la haine naïve. Je veux être le premier à découvrir et rejeter avant que ce ne soit populaire. Demain s'annonce la phase, rien à foutre, et je ne trépigne pas d'impatience en l'attendant. Les légumes diffuseront peut-être les produits chimiques que je sécrète à l'intérieur. Une bonne excuse, ces produits chimiques. Je touche rarement mon instrument, c'était si excitant avant. Pratiquer la musique n'est pourtant pas une corvée, mais c'est maintenant une perte de temps. Tous les 2 mois, je récolte les résultats de l'air. Tu n'attendras pas de ta rockstar qu'elle te guide.
Ouais, c'est quelqu'un qui voulait vraiment pas être
un modèle,
qui voulait vraiment pas être porté au nu comme il a été. Et on voit l'évolution de Nirvana dans ce livre. Il commence à être connu, à exploser aux yeux du monde. Et plus il est connu, plus il est mis au devant de la scène,
plus ça va pas.
Il a eu également des gros problèmes, je dirais gastriques. Enfin, il avait des problèmes au ventre. Il avait tout le temps mal au ventre. Et il arrivait à un moment où il y avait que, après la morphine, il y avait que l'héroïne qui lui permettait de se sentir bien.
Ouais.
Et on voit dans ce livre qu'il a commencé justement à se droguer, non pas parce que c'était quelqu'un qui faisait de la musique grunge, parce que c'était un artiste, mais pour oublier ses douleurs qu'il avait constamment, et les médecins n'arrivaient pas à savoir ce qu'il avait.
Je pense que ça rejoint aussi les douleurs après mentales. Et... Oui, est-ce que ça parle de ses séjours en hôpital psychiatrique aussi ?
Alors, il écrit... En fait, on sait qu'il écrit des textes pendant qu'il est à l'hôpital, mais c'est jamais vraiment précisé. Enfin, il précise vraiment jamais « je suis à l'hôpital ». Voilà, mais effectivement, il y a des textes qui ont été écrits pendant ces périodes-là. Ouais.
Voilà, alors il y a deux films qui sont sortis. Il y en a un qui est sorti très dernièrement. C'est un documentaire, film documentaire sous forme de bande dessinée avec des images d'archives que personne n'a vues sur toute sa jeunesse. Et on comprend mieux en voyant sa jeunesse pourquoi c'est devenu un enfant torturé. Et bien sûr, il y a, on en parlait avant l'émission avec Héloïse, ce film sur les derniers jours, Last Day, de Gus Van Sant, qui est extraordinaire juste avant sa mort. Bon, ça t'a plu alors, Héloïse ?
Ah ouais, super, merci. Comme ça, j'ai eu l'occasion de m'y plonger. Et comme j'ai un exemplaire chez moi, tout va bien. Bon. Je pourrais finir les tests que je n'ai pas lus.
Allez, parfait. J'ai donné deux livres, donc on va passer au deuxième. J'ai donné la parole à Valérie.
Ah merde, ça c'est le tien ?
Je sais pas, mais
je
peut-être.
Sais pas, bon, moi, j'ai trouvé parmi mes chroniqueurs adorés, j'ai trouvé ma Bible, ma perle, mon livre qu'il faudra que j'ai à mes côtés toute ma vie. Mon livre, c'est la Bible. Enfin, c'est une version revisitée de la Bible. Mon livre s'appelle « In God We Trust ».
Qui t'a donné ce livre ?
Alors, je soupçonnais Héloïse d'être la psychopathe du groupe.
Banco.
J'ai eu un doute. Hein.
J'adore
j'ai
ce livre.
Non, mais je,
et cet auteur.
Quand je dis « j'ai trouvé ma Bible », je ne plaisante pas. C'est une...
Bien joué, t'as trouvé la personne qui t'a donné.
Ouais. Mais j'ai hésité, hein. Tu vois, j'ai hésité.
Popo, il y a du niveau. Hein.
Ouais, il va falloir
faire
fort,
attention.
Là. J'ai hésité. Je pense être pas mal sur les deux autres, mais bon, on verra. Donc là, ma Bible, c'est « In God We Trust ». C'est de Winchlus, pardon, je ne savais pas comment ça se disait. Voilà.
Winchlus.
Excusez-moi, je sais qu'on va bientôt devoir apprendre l'allemand, mais je me laisse encore un peu de temps. Merci.
Oh. Vas-y.
Donc, c'est édité au Roquin Marteau. La couverture laisse vraiment penser à...
Ah, mais c'est au Roquin Marteau, et toi, tu ne savais pas qui c'était.
Non, c'est les Roquin Marteau, c'est forcément Héloïse.
C'est forcément Héloïse.
Oui,
c'est
mais facile. Vu qu'elle nous en parle tout le temps, elle aurait pu nous en vendre aussi. Elle aurait pu déjà nous la commercialiser, la mettre à sa vitrine, en gros, achetez-le.
Ouais, ouais.
Voilà, donc la couverture,
bon,
elle est un peu...
Popo, c'était facile hein, pour Héloïse et Valérie de savoir qui leur avait donné les livres. Hein.
Ouais, oui,
dis-toi ça quand tu vas te tromper tout à l'heure.
Donc la couverture, elle est cartonnée un peu comme une vraie Bible. Le dessin est en or, on voit Dieu qui souffle très fort sur une croix. Et au dos de la couverture, ben, on voit le pauvre pèlerin qui priait sous la croix, qui se fait embrocher par Dieu parce qu'il a cassé la croix. Donc déjà, ça met dans le ton. Donc, alors, après s'être attaché à déconstruire Pinocchio, donc Winchlus, c'est comme ça qu'on dit, il s'attaque au livre de contes et de légendes le plus lu au monde, la Bible. Donc, c'est raconté par un narrateur extérieur qui est Saint Frankie, qu'on comprend être Saint François d'Assise, qui va nous guider en fait dans les différents épisodes qui ont marqué l'Ancien et le Nouveau Testament, mais celui dont on entend parler depuis qu'on est né. Voilà, et en fait, toute la BD va reprendre tous les passages de la Bible avec des anecdotes dont on ignorait l'existence, avec les fabuleuses aventures de Dieu, qui est un personnage hors norme, un cyclope extraordinaire.
C'est Dieu.
C'est incroyable, quoi. On revoit tous les passages, déjà la création du monde. Ben moi, on m'avait toujours dit, le gars, septième jour, il se repose, il a tout fait en sept jours. En fait, c'est faux. Il a mis beaucoup plus de temps que ça. Il a créé l'homme Adam, puis Adam s'ennuyait, alors il a créé le badminton. Mais plein de trucs
Tu vois, je ne savais pas et ça m'a éclairé sur vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Il y a quand même voilà, le gros problème de Jésus, tu vois, qui porte quand même un lourd fardeau. Avoir un père comme ça, c'est quand même pas simple. Et tout est écrit, tout est détaillé. C'est super bien dessiné. Tu apprends qu'il ne faut pas faire confiance à ses potes, qu'il y en a au moins de problèmes, ils peuvent te vendre pour quelques pièces de monnaie. Enfin, voilà, c'est toute la Bible qui a été revue, revisitée. Les dessins sont super. C'est drôle, c'est bien écrit. C'est hyper, hyper fidèle à ce qu'on connaît, en fait. Il faut déjà, je pense, avoir une petite notion de ce qu'est l'Ancien et le Nouveau Testament pour pouvoir tout comprendre et apprécier. Et voilà, donc là, ici, tous les prétextes à Bagatelle et à Gaudriole pouvant facilement heurter les puristes, les boutinistes, les adeptes du premier degré jusqu'à ce que la mort nous sépare, les boutinistes et Christine Boutin. Voilà.
Surtout Christine Boutin, j'imagine.
Mais à part ça, ça peut plaire à tout le monde.
Ce n'est pas de la perle de perlimpinpin.
Non, ce n'est pas de la poudre de perlimpinpin.
De la poudre, pardon. Non, non.
Voilà, donc c'est vraiment... moi, ça va devenir ma Bible, en fait.
Alors, c'est format A4,
ouais.
C'est ça, hein?
Ouais, donc c'est format
tout en
BD.
Couleur, très, ouais, très bel ouvrage,
super
hein, cartonné.
Bien dessiné, c'est
les requins,
c'est
quoi.
C'est drôle, ouais. C'est fin, il y a plein de petits trucs, plein de petits détails.
Et c'est un peu trash aussi.
Oui, voilà, c'est parfois assez trash.
D'où le côté psychopathe.
Ouais, par moments, ça part assez barré, ouais. Notamment quand Adam et Ève goûtent au premier fruit défendu. Là, c'est là où on se dit waouh.
Ce sont les mêmes dessinateurs tout le long ou
ouais,
on a plein de dessinateurs différents pour.
Qui écrit et qui dessine. Mmh.
Voilà, tout le long, il n'y a pas d'invité.
Il y a Ciseau aussi qui est un graphiste des requins, qui a d'ailleurs dessiné le logo de la lorgnette.
Ah oui,
qui a participé aux couvertures et aux double pages.
Ouais, par moments, il y a comme des petits posters là. Inferno. Il y a plein de détails, il y a plein de dessins, c'est génial quoi. Jésus, j'adore Jésus qui essaye de boire une tequila paf, comme il a ses mains trouées. Enfin, il y a plein de choses qui sont. Non, mais c'est grandiose. Même, je suis sûre
que
même.
On va avoir des problèmes avec la maison diocésaine.
Non,
hein,
ben, je suis sûre que même s'ils ont un peu de. S'ils sont pas premier degré, s'ils sont premier degré, ils ne les lisent pas, mais s'ils ont un peu d'ouverture, puis ça amène une initiation.
On va les inviter à leur demander alors.
C'est génial, je pense qu'ils peuvent le lire. Hein. Il y a rien de. C'est un peu blasphématoire par moment, mais légèrement quoi. Non, c'est terrible, c'est extraordinaire, quoi. C'est okay. Adam et Dave. Enfin,
super.
Wow. Non, c'est vraiment, c'est grandiose. Ouais. J'en parle peut-être pas aussi bien que ce qu'il faudrait en parler.
C'est très bien.
Mais il est un ouvrage que chacun devrait avoir dans sa bibliothèque.
Ok.
C'est In God We Trust.
Je rêve ou t'es tombé que sur des BD, toi ?
Non. J'ai un livre avec des choses écrites au milieu.
Ah, c'est bien.
Voilà.
Je commençais à.
Il y a beaucoup de choses écrites chez Sophie Calle.
Il y a des choses, figure-toi, que justement, je pensais qu'il y avait que des dessins. Mais on en parlera tout à l'heure.
Après, moi, d'un côté, quand j'ai fouillé, j'ai vu des grands livres, je ne les ai pas pris. Hein.
Ah, mais t'as tort, parce que des fois, les petits livres petits, tu vas avoir beaucoup d'écriture.
Et ouais. Ok, merci Valérie.
Avec plaisir.
Elga, Popo, qui veut prendre la suite de Valérie.
Eh ben, j'y vais, si vous
voulez. Allez, vas-y.
Alors bah oui, bah moi j'ai eu un petit livre. Le premier, c'est un livre de Boris Vian, c'est L'Arrache-cœur. Et j'ai mis extrêmement longtemps à le lire.
Ouh là 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 là.
C'était très très dur à lire, suis ressortie déprimée complètement.
Ah mais c'est un livre pour toi alors. Mais c'est parfait.
Tu vois, le hasard c'est bien.
C'était
terrible.
Ça a dû te plaire. Mais c'est au niveau du style du coup que tu as eu du
mal. Non, de l'histoire en elle-même, ouais. Du caractère des personnages qui m'ont... C'était...
Popo, qui t'a donné ce livre?
Alors... J'en ai parlé avec une de nos grandes auditrices, ma sœur.
Ouais. Bon salut.
Salut
et
ta sœur.
Moi, je votais pour Héloïse. Et quand je lui ai dit, c'est complètement barré, elle m'a dit tout de suite, c'est Héloïse.
Alors, est-ce que c'est Héloïse?
Est-ce que j'ai raison?
Ben merci, c'est gentil, mais vous avez faux. C'est pas moi.
Oh, oh là là.
Allez, alors, c'est toi, Elga?
Non, parce que...
Oh, moins de deux. Alors, attends, je vais noter le moins de deux. Quand même.
Il reste que les plus fiables.
Alors là, je vous avais éliminé d'entrée l'un et l'autre. D'entrée.
Oui, mais non.
Moi,
alors, qui
est-ce que je dis sûr?
Alors, vas-y.
Que c'est Valérie,
ouais.
Toi?
Moi, je suis quasi sûre que c'est Valérie.
Ah, bah, j'aurais penché plutôt pour Ludo, mais du coup, comme je fais que de me gourer, j'ose plus rien dire. Je vais faire un moins trois, quoi.
Tente.
Vas-y, tente. Toi.
Eh non. Popo moins 3.
Moins 3. Oh là là, je suis nulle à chier.
C'est Valérie.
Ouais. Oh là là, mais c'était.
C'était dur
parce que il y a des passages, enfin, c'est des personnages qui sont extrêmement tristes, qui sont extrêmement cruels pour beaucoup, qui sont extrêmement égoïstes, qui sont extrêmement malheureux. Et on a donc, en fait, je raconte un petit peu l'histoire, même si je trouve ça très difficile à raconter. On a ce personnage qui s'appelle Jacques Maure, qui est un psychiatre, psychanalyste. Il est né très récemment, hier, pour tout dire. Et c'est un personnage qui est vide d'émotions. Et du coup, il cherche, en psychanalysant les gens, à récupérer les émotions pour comprendre l'humain. Et donc, il rencontre plusieurs personnages. Il se retrouve d'abord dans une maison où il y a Clémentine, qui est en train de donner naissance à ses trumeaux, ses triplets. Mmh. Ses triplets. Et donc, voilà, il rencontre cette femme, il participe à l'accouchement, et petit à petit, il va rentrer dans cette famille. Clémentine va mettre de côté son mari, elle veut pas qu'il participe à l'éducation, elle va se consacrer uniquement à ses enfants et les surprotéger, jusqu'à détruire complètement toute la liberté qu'un enfant peut avoir. Et donc Jacques Maure va participer un peu à tout ça en l'aidant sur des choses pratiques. Il va d'abord ramener le berceau, il va ensuite s'occuper de ferrer les enfants.
Mais c'est du Vien, hein.
Oui. Voilà. J'avais déjà voulu lire Vien, j'avais déjà voulu lire L'écume des jours, ouais. Et j'avais lu la préface. Et en fait, il annonçait qu'il écrivait la plus belle histoire d'amour de tous les temps. Ouais. Et du coup, j'avais pas lu.
J'avais hésité à mettre L'écume des jours ou L'herbe rouge. Et j'ai dit, off. Et puis, voilà.
Mais donc, cette histoire, il y a en plus un personnage qu'on voit peu, mais qui, je pense, est assez central, alors qui s'appelle la Gloïr, la Gloire. J'ai pas su. J'ai l'impression que ce Itréma, il ne se lit pas forcément Itréma dans le bouquin, et qui est un habitant du village. Donc il est sur son bateau, sur la rivière, et il récupère dans la rivière toute la honte des villageois, tout ce que les villageois lui balancent, tout leur mal-être, tout leur remords, toute leur honte, parce que c'est des gens vraiment qui ont une vie assez cruelle, qui ont des habitudes assez cruelles. Ils ont par exemple une foire aux vieux, donc ils achètent des vieux pour les détruire, pour les violenter, pour les humilier.
Ah, mais ça, c'est cool, hein.
C'est rigolo,
enfin,
non,
enfin, tu es vieux,
Est-ce que du coup, c'est quand même, c'est très sombre, mais est-ce qu'il y a de l'humour noir? Est-ce que c'est
drôle,
en fait?
Oui, beaucoup, ouais. Mais en plus, il y a l'écriture, c'est à la fois très poétique, c'est très littéraire, on a l'impression, c'est Queneau qui a fait la préface, et ça va très très bien, ça va très très bien avec le truc. Donc, ça empire le truc, parce que c'est une très belle écriture qui raconte une cruauté horrible. Et en plus, on voit. Moi, ce que j'ai ressenti.
Pourquoi Valérie ?
Je suis. Alors, pourtant, je suis pas du genre à aimer la masturbation littéraire. J'aime que les choses soient claires et simples quand je lis. Mais je vous une fascination à Vien dans ses chansons et ses écritures.
Et toute son œuvre.
Ah ouais, mais L'herbe rouge, j'ai dû le lire.
Moi, j'avais essayé. J'irai cracher sur vos tombes. J'ai détesté, quoi.
Ah,
l'histoire,
bien,
la façon dont les personnages sont traités, sans
t'aurais pu choisir un livre d'Elga.
J'ai détesté,
quoi. Ah non, vu qu'elle les a portés à deux jours, mais ça aurait été mieux. On te laisse continuer, Popo.
Et du coup, c'est extrêmement amer. Et puis en plus, ce que je me disais, c'est, je sais pas si c'est ce qu'il a voulu montrer, mais tous ces gens-là qui font souffrir tout ce qui les entoure, ça leur paraît tout à fait naturel. Ils balancent leur honte à la Gloïr, là, ce personnage très bizarre. Et du coup, ça devient quelque chose de normal. Et j'ai l'impression que, je sais pas en plus si tu m'as donné ça maintenant en période d'élection pour nous montrer à quel point on devient inhumain et ça devient normal. Mais voilà, on voit ça, on a l'impression que Vian, il dénonce vraiment ça. Et c'est très bien fait parce que on se dit, on en ressort en se disant, mais c'est horrible. Et en même temps, tous les personnages vivent avec et très bien. Et ça ne fait peur à personne. Tout le monde trouve ça normal. Et donc, j'en suis ressortie très, très mal.
Et là, on remercie tous Valérie. Merci.
Valérie, c'est un de tes livres préférés, du coup ?
Ça fait partie des livres... pas des livres préférés, parce qu'on en avait souvent parlé, de nos livres préférés.
C'était difficile pour ça, cette
donc
émission.
C'était dur, ouais. Donc j'ai
pas donné non plus mes livres préférés, parce qu'on les a tellement...
Ouais, on en a beaucoup parlé. Puis moi, j'ai pas mal viré dans ma bibliothèque aussi ces derniers temps. Donc...
Je déconseille pas du tout de le lire. Je dis absolument pas que c'est un mauvais livre. Au contraire, je pense que c'est un livre extrêmement bien écrit et qui fait ressentir énormément de choses. Par contre, préparez-vous. Ouais. Voilà, ça va être dur, très dur.
Merci Valérie.
Mais je n'aurais jamais deviné que c'était toi Valérie.
Mais moi j'aime bien.
Non mais tu sais que Valérie pour gagner à des jeux elle est prête à
se vendre. Je vais faire des trucs de dingue. Voilà.
C'est le titre c'est
L'arrache-cœur.
Voilà. Ça aurait été l'attrape-cœur, ça aurait pu être moi, mais l'arrache-cœur non.
Ouais.
Ok, merci Popo, on va passer au livre d'après, vu que c'est Valérie qui me l'a donné aussi. Parce qu'elle parle de psychopathe, mais Valérie était bien une grande psychopathe aussi.
Dans ma jeunesse, ça m'est arrivé. Comment t'as su ?
Du théâtre, Robert Zucco, Bernard-Marie Coltès, un livre de conteur.
Oh de merde, conteuse. Ben ouais, je suis bête.
Et ouais.
Et ouais. Non, mais c'est du théâtre normalement, en c'est fait, pas du conte.
J'hésitais, oui c'est du théâtre, mais... Enfin, t'as l'esprit conte quand même. Et j'hésitais avec Héloïse jusqu'à ce que je lui tire les verres du nez ce matin en disant « Mais t'as donné une pièce de théâtre dans tes livres ?» Et qu'elle dise « Non ». Je dis « Bon, ok. »
Oh, t'es nul.
Donc, c'est Valérie.
T'as triché.
Donc, tu as triché, moins.
Non, pas du tout. Elle n'avait qu'à pas le dire. Donc, Ludo, il va marquer plus un. Hop, il revient à égalité. Alors, ma chère amie qui a des livres de psychopathe m'en a donné un beau Roberto Zucco.
Il est génial. Hein.
Alors, tiens, Helga, au hasard, connais-tu Roberto Zucco ?
Je connais Coltès, mais pas Zucco, donc je veux bien une explication.
Alors, parce que Roberto Zucco, qui s'appelle Zucco normalement, est un personnage qui a existé. Donc avant de parler du livre, je suis obligé de vous parler de la vie de ce personnage, qui d'ailleurs va expliquer l'histoire qui se déroule dans cette pièce de théâtre. Roberto Zucco est une vraie personne qui est un élève très sportif, couvé par sa mère autoritaire, qu'il adore et le surprotège. Lui à 19 ans en 81 le 9 avril il ne vote pas François Mitterrand, il a autre chose à faire. Au cours d'une dispute au sujet de cours séchés, il menace de se suicider en mettant un couteau sur sa poitrine pour finalement tuer sa mère, puis son père rentré de son commissariat peu après, son père gendarme. Ils sont fiés au volant de la voiture, il est arrêté quelques jours plus tard à la frontière yougoslave, c'est en Italie, c'est un italien. Il est déclaré schizophrène par les psychiatres, il peut pas être jugé pour ce crime, donc il est interné en hôpital psychiatrique de Bologne pour une durée de 10 ans. En 86, au bout de 5 ans, il s'échappe. Il se rend en France où il commet vol, cambriolage, enlèvement, viol, meurtre. En 87, près de Chambéry, il tue un policier d'une balle de 22 longs rifles. En janvier 88, il abat un autre policier. Il blesse grièvement son collègue. Finalement, il devient l'ennemi public numéro 1 en France, en Suisse et du coup en Italie. Il est arrêté en 88. En février 88, grâce aux parents de sa petite amie Francesca, une jeune lycéenne qu'il identifie suite à la diffusion de son portrait robot par la RAI, le 1er mars de la même année, il tente de s'échapper encore une fois par les toits de la prison et les câbles électriques, mais il tombe et il se blesse, 3 côtes cassées, une luxation de l'épaule. En 88, il est de nouveau déclaré schizophrène, irresponsable, paranoïde, schizophrène paranoïde exactement. Et enfin, il se suicide dans sa cellule de sa prison de Vicens avec une recharge de gaz, cartouche de gaz butane qu'il utilisait pour son petit réchaud, qu'il ouvre dans un sac plastique avec lequel il a recouvert sa tête. Et il échappe ainsi à ses procès en Italie, en France et en Suisse.
Merci, merci pour ce mode d'emploi du suicide.
Voilà, donc Popo, hein, on continue dans les livres gays et joyeux.
Oui, mais là, c'est... Ouais.
Alors, oui, parce qu'il y a toujours un mais avec Valérie.
Mais bien sûr.
Il faut le savoir. Notre ami Bernard-Marie Coltès, que je ne connaissais pas non plus, a décidé d'écrire cette pièce qui porte son nom, en la couplant avec l'histoire de la gamine. Alors, le seul nom qu'on retrouve, c'est le nom de ce personnage. Après, il y a la gamine, le frère, la sœur, le frère, le gardien de prison, l'autre gardien de prison, l'autre frère, la mère... Et donc la gamine qui est finalement, on le comprend, cette jeune lycéenne qu'il a dénoncée à la police dans la vraie histoire. Sauf que dans la gamine, dans ce livre, comme l'histoire de Zucco n'est pas assez sordide, cette gamine se fait déflorer, on imagine de force, par Roberto Zucco avant d'être vendue par son frère à un macro. Ouh, ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles.
Donc... Et non pas le soleil.
C'était dans un mauvais jour. C'est pas possible.
Alors, non, donc, t'as pris les pires, quoi.
Vous imaginez bien que cette pièce provoqua un énorme scandale à sa sortie, surtout qu'on était encore en période de deuil parce qu'elle est sortie peu après toutes ces histoires de cette personne. Mais c'est quand même un livre très drôle, avec du comique de répétition, avec du comique de situation aussi, des répliques qui sont parfois touchantes. Voilà, en gros, on nous parle de tous les personnages comme Roberto Zucco, c'est, on parle de solitude, de quête d'identité, de, ou de quête du bonheur, de désillusion, de la violence de la société, de l'abandon, de la folie. Mais ça reste quand même avec parfois une touche d'humour qui est très drôle. On le voit, le livre commence, il s'échappe d'une prison. Où les gardiens parlent et c'est du théâtre de l'absurde, quoi. C'est du comique de répétition. Ils parlent, tu penses que quelqu'un peut s'échapper? Ben non, personne ne s'est jamais échappé. Donc je ne vais pas regarder, mais tu regardes quoi? Ben je ne vais pas regarder si quelqu'un s'échappe parce que personne ne s'échappe. Et c'est ça pendant 3-4 pages. Oh, mais je crois qu'il y a quelqu'un sur toi, mais ce n'est pas possible, personne ne peut s'échapper de cette prison. Voilà, c'est extrêmement drôle, c'est comique de répétition. Oui, après, quand on apprend, parce que moi j'ai fini la pièce, je me suis dit, ça ne peut pas être la vie d'une personne, quoi. Roberto Zucco, personne ne le connaît. Et finalement, si, c'était la vie d'une.
Ah oui, moi, quand je l'avais lu, quand j'avais fini, j'avais tapé sur Google, effectivement, pareil. Roberto Zucco, et tu vois cette photo de ce jeune homme, très beau d'ailleurs, italien, et c'est fascinant, en fait, ce qu'il en a fait de cette vie criminelle, parce que moi, j'avais l'impression que genre sort comme une espèce de quête mythologique, enfin, je sais pas, quelque chose de très
puissant. Exactement ça, c'est une quête mythologique, et c'est ça qui a pu aussi déranger, quoi. Qu'on transfigure autant un meurtrier à cette figure de mythe. Mais après, voilà, c'était quelqu'un qui était schizophrène, qui perdait son identité. Ça, on le retrouve très, très bien dans cette pièce où la personne se répète son nom pour pas l'oublier. 10 minutes après, il en a plus rien à faire. Il passe à autre chose. C'est une très belle pièce de théâtre, moi qui n'en lis jamais.
Mais moi, en fait, je te l'ai donnée parce que mon rêve, ce serait de jouer ça, en fait, au théâtre. Donc, s'il y a un metteur en scène qui nous écoute.
Mais quel personnage?
Tu l'as donné à Ludo direct, en fait, c'est ça?
Non, je ne l'ai pas donné. Ben, j'ai tout mis dans la boîte, tu étais témoin.
Non. Je l'ai pioché dans la boîte.
Il a pioché au hasard.
Et quel rôle tu voudrais jouer?
Non, mais peu importe. Après,
déjà, tu ne peux pas jouer la galine.
Le premier que j'avais lu, pourtant, c'était Tabataba. C'était le.
Alors, je t'avouerai que je ne l'ai pas lu, du coup.
C'est très drôle. Tu devrais le lire, je te le laisse.
Parce que j'ai eu un tapé un roman après.
Mais c'est.
Que j'avais déjà lu.
Qui est très court aussi.
Qui est très court. Ouais. Combien t'as donné de livres, toi, Valérie?
Je ne sais pas, 5 ou 6, je crois. J'arrivais pas à choisir.
D'accord, très bien. Non, mais c'est bien. Moi qui lis jamais le théâtre, c'est une belle pièce. Alors oui, après, l'histoire est crue, mais elle n'est pas racontée de cette manière-là. Donc tout passe facilement. Voilà, quand je parle de l'histoire de la gamine qui, on le comprend, s'est fait violer par cette personne et qui, du coup...
Déflorer, c'était plus joli.
Et qui, du coup, s'attache à lui et qui explique à sa famille qu'elle doit aller le retrouver parce que maintenant, c'est devenu une femme et qu'elle explique à sa grand-sœur qui la couvre, qui est totalement barrée, qu'elle n'a pas à lui apprendre l'histoire de la vie parce qu'elle, elle a vécu la vie et pas sa grande-sœur. Enfin, c'est une famille totalement déjantée qui est complètement folle, avec le père qui est alcoolique, qu'on voit pas, à part quand il vient chercher les bières, où il dit « je devrais me remettre à taper votre mère, parce que maintenant, j'arrive plus à trouver les bières qu'elle me cache ». Donc, l'histoire, c'est vraiment sordide, mais ça reste drôle de la manière où c'est raconté.
C'est comme Boris Vian, tu vois, c'est
sordide. Et ça saurait s'adapter vraiment en film aussi. Je sais pas s'il y a eu un film, mais...
Alors, par contre, sur YouTube, il y a la pièce de théâtre en entier.
Oui, mais ça a déjà
deux heures
été
et quelques. J'ai juste regardé des passages pour me rendre compte comment tu pouvais mettre cette pièce, parce que c'est quand même... j'imagine que ça doit être compliqué à mettre en scène.
Mais Koltès, c'est un grand auteur de théâtre, et souvent, ses textes sont compliqués à mettre en scène, je pense.
Certainement. Voilà, merci Valérie.
Écoute, avec plaisir.
Elga, avant la pause musicale.
Avant la pause?
Non, tu veux après?
Peu importe.
Bah, je sais pas.
Fais ton choix, Elga.
Est-ce que c'est court ou c'est pas court?
Celui-là, ça peut être court.
Allez, court.
Allez, on fait court.
Alors, il y a après un peu de soleil. Ça s'appelle Envie d'ailleurs, aux éditions du Chat, une maison que je connaissais pas du tout. Et alors, c'est un collectif, donc il y a à peu près 30 auteurs, voire plus.
30 auteurs dessinateurs?
Ouais, 30 auteurs dessinateurs. Des choses qui ont déjà été publiées dans des revues et qui ont été intégrées à ça, ou des choses inédites. Donc, en fait, voilà, il y a plusieurs trucs. Je pense que c'est de Pauline.
Non.
Non, donc ça, Valérie. C'est très bon, ça. Moins un.
Donc Valérie, voilà.
Allez, on reste à moins un, le gars.
Donc, Envie d'ailleurs, c'est une invitation au voyage, à rire, pleurer, vibrer, s'évader, comme ils le disent dans la très courte préface avant les BD, en fait. Et il y a des choses extrêmement différentes, que ce soit en termes de dessin, d'histoire, où il y a des choses qui sont très détaillées, qui partent très loin avec beaucoup de textes, ou bien parfois c'est juste deux pages avec pas de parole, quoi. Donc on voit Il y a des histoires qui se passent dans l'armée, il y a des histoires qui se passent dans des mondes imaginaires, avec des enfants, des animaux, des choses comme ça. Et toujours avec cette idée de partir, s'évader, que moi, je n'ai pas forcément retrouvé dans toutes les histoires, en fait. Et je voulais demander à Valérie, pourquoi tu l'as choisi ?
En fait, c'est celui qui a fait la préface, c'est un copain photographe à moi,
okay.
qui avait fait une participation... Mais quoi ?
Ça y est, allez, tiens.
Ah, mais non, mais j'ai trouvé ça super sympa. Il s'était lancé là-dessus, et je vous mettrai le lien sur la page Facebook de l'émission, d'ailleurs.
D'accord.
Et c'est un collectif de plein d'auteurs, certains sont connus, d'autres moins. Et quand ils avaient fait cette collecte pour pouvoir être publiée, je pense que c'était pour que chacun puisse un peu être visible.
Ouais,
j'avais trouvé l'idée plutôt sympa, même si effectivement, passer d'une histoire à l'autre, parfois ça fait des petits chocs thermiques et émotionnels.
Mais en fait, le problème, je trouve, c'est que certaines, elles font genre, parfois il y a 4 pages, sauf que c'est trop court, 4 pages, pour l'histoire qu'ils veulent mettre en place. Mmh. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'inégalités entre les histoires, entre les auteurs. Et il y a aussi un problème, moi aussi, qui me gêne, c'est de confort de lecture, où parfois c'est écrit rikiki. Ah. Et du coup, c'est pas du tout agréable à lire. Et moi qui ai 22 ans, si déjà je dis que c'est pas facile à lire, je me dis les gens un peu plus âgés.
Vas-y, montre à Ludo, c'est le plus vieux de l'équipe. Hein, pour voir.
Non, mais moi j'ai des grosses lunettes.
Ah, ça va alors.
Donc voilà. Mais c'est vrai que l'idée est bonne, mais moi ça m'a perturbé cette inégalité en fait, entre les auteurs, les histoires, où il y en a qui en quelques pages arrivent à faire un truc. Très bien, et d'autres qui sont un peu moins bons, j'ai trouvé.
Je pense que ça peut être pas mal, ce format-là, c'est-à-dire des recueils en fait, de tout un tas de BD, tout un tas d'auteurs. Quand tu prends le train, quand tu as un peu envie de te focaliser sur... ou quand tu es sur la plage, ou quand tu n'as pas envie de te focaliser sur Guerre épée pendant 3 heures, là tu... voilà.
C'est très différent de Guerre épée, c'est sûr.
Non, mais c'est ça, mais des fois, on a besoin aussi d'avoir plusieurs... Pardon.
On a des envies d'ailleurs.
Des envies d'ailleurs et des envies de changement, de diversité dans ses lectures, quoi, j'imagine.
Merci Elga. Alors, on va passer à notre pause musicale. Donc, pourquoi ça fait rire les oiseaux, Héloïse ? Pourquoi tu choisis cette chanson ?
Encore, Héloïse ? Mais c'est du vice,
non. Non, on
va. À la base, j'avais choisi une chanson de La La Land, un film de cette année que j'ai adoré.
Wow.
Allez, on va l'écouter.
Oh,
alors.
C'est quoi ce waouh ?
The sun is nearly gone, the lights are turning on, a silver shine that stretches to the sea. We stumble on a view that's tailor-made for two. What a shame, those two are you and me. Some other girl and guy would love this swirling sky, but there's only you and I, and we've got no shot. This could never be, you're not the type for me, and there's not a spark inside. What a waste of lovely.
You say there's nothing here. Well, let's make something clear. I think I'll be the one to make that call.
What's your call?
And though you look so cute in your polyester suit,
it's me.
You're right, I'd never fall for you at all.
Love
me, what a waste of a lovely night.
Qu'est-ce qu'il y a? Tu arrêtes de parler des
qu'est-ce
goûts littéraires de.
Tu parles de la liste de Schindler.
Allez, on repart dans cette émission avec Héloïse.
Alors, moi, j'ai pris un petit bouquin qui s'appelle Poussière d'homme de David Lelay. Et donc, c'est une couverture avec une plage, avec la mer bleue. Et donc, il y a une citation de Marina Carrère d'Ancos qui dit quand même. Une des plus belles histoires d'amour que j'ai jamais lues. Oh. Donc peut-être que, oh. Au fond, tu l'aurais déjà laissé tomber.
Il y a du suicide ou pas? Génocide?
Pas tout à fait.
Alors tout d'abord, je tiens à dire merci à la personne qui a mis ce livre dans la boîte secrète et entre mes mains. À cause d'elle, j'ai explosé mon budget mouchoir.
Voilà. un livre qui a été posé dans la boîte il y a 2 jours. Donc ce point ne comptera pas, Héloïse.
C'est Alia, voilà.
De toute façon, hein, si je mets des livres, tous mes livres, il y a écrit mon nom et mon prénom. Ah. Donc, de toute façon, j'ai un ex-libris tricon, mais de toute façon, on ne peut pas jouer à ça.
Moi, j'ai eu un livre où il y avait un scotch dedans, pour cacher quelque chose. Ok, donc c'est peut-être toi, alors.
C'est peut-être ça.
Donc, sans exagérer, j'ai pleuré au moins 10 de fois sur les 200 pages.
Dis pas ça, Pauline va vouloir le lire après.
Non, mais ça se lit très vite.
Tu sais que tant est si bien, enfin, je devais faire des pauses pour penser à autre chose, pour faire autre chose, pour me remettre de ce que je venais de lire.
Ah bon, mais tant que ça.
Alors que ça m'arrive, mais vraiment très rarement, de pleurer ou même de rire aux éclats devant un livre, tu vois. Mais là, mais vraiment les larmes, quoi. J'ai pleuré plusieurs fois, 10 fois.
Donc...
Alors oui, c'est fou.
En plus, en 125 pages, il est très court, mais il te plonge dans une émotion.
Tu as enlevé mon marque-page, Ludo, là ?
Non, non, il était là depuis le début. Non, je te promets, tu l'avais pas mis. Bref, il n'y a pas ton nom dessus. Hein.
Donc certes, mais si, regarde au début.
Non, non.
Donc certes, oui, donc comme vous l'avez compris, c'est très triste.
Bah oui, mais c'est pas cool.
Mais c'est surtout très beau, parce qu'il s'agit là d'un récit... le récit d'une magnifique histoire d'amour, celle de l'auteur, donc David Lelay, qui a perdu son homme mort d'un cancer. Et donc, il raconte lors de l'année qui suit le décès de son copain.
C'est extraordinaire. Elle s'est trompée, son homme. Ça ne marche pas.
Donc, c'est l'année qui suit le décès. Donc, il raconte tout en vrac. Il raconte ses souvenirs d'avant la maladie, de la crémation, de la maladie, de la fin de l'histoire, du début de l'histoire, des anecdotes, des odeurs, des fulgurances amoureuses, le quotidien, l'espoir qu'il a eu, la douleur de l'absence, la notion de deuil. Donc, franchement, c'est très dur. C'est très beau.
J'ai envie de pleurer.
Et c'est vrai.
Mais c'est clair, c'est atroce. Mais c'est affreux, Elga.
Non, c'est très, très beau.
Bon, ce qu'il y a
c'est
avec
affreux.
C'est sur un sujet affreux, le deuil, mais c'est très beau.
Est-ce que tu l'avais mis il y a 2 semaines dans la boîte, c'était pour Popo, ça. Hein.
Donc, ce qu'il y a dans ce livre, c'est que l'amour est décrit, mais d'une manière que j'ai rarement lue, c'est-à-dire que c'est vraiment écrit... ça se lit comme un trésor, en fait. L'écriture est très sensible, très touchante. C'est une langue magnifique, c'est solaire. Les sentiments, ils te jaillissent brut à la gueule, t'as pas moyen de les éviter. C'est assez hallucinant. J'ai adoré, mais bon, il faut le lire dans un bon moment de sa vie. Je pense que... Non, mais la réflexion Lundi. Sur le deuil peut aider certaines personnes qui vivent ça, je pense. Mais à chaud, comme ça, quand on n'est pas bien, je pense qu'il faut se le réserver pour des jours meilleurs. Alors, si vous voulez, je peux vous lire quelques extraits que vous rendiez un peu compte de la langue. Promis, je ne pleure pas.
T'as pu faire des pauses avec Kurt Cobain comme ça, quand on pouvait plus.
T'es reparti
du côté de Seattle.
Je vais te rendre In God We Trust.
Attends,
ça te fera du bien.
Pendant que tu cherches, Elga, un mot sur l'auteur, peut-être. C'est un auteur contemporain.
Oui, français, qui est connu surtout parce qu'en fait, il a fait des biographies de Nana Mouskouri, de Barbara, de grandes chanteuses.
Tu me fais rêver, quoi.
Et qui a écrit ça, voilà. Je pense que c'est son seul roman à lui, enfin je crois, après
Alors,
la mort
court,
de son compagnon. Quoi.
Un
très
roman,
court, 125
court.
Pages.
Enfin un roman, ça parle
c'est
de lui clairement
quoi.
Et de sa vie. Quoi. C'est
ça
pas,
reste une biographie.
C'est un roman. Moi je vois ça comme un témoignage, comme quelque chose de... Enfin c'est tout à fait vrai. Quoi. Donc j'ai choisi, j'ai noté plein de pages, mais je vais choisir 2 extraits. Donc noter, annoter, légender... Décrire tous les détails de notre vie ensemble, mon obsession. Du premier jour au dernier, rechercher les rires, m'accrocher à ces instants perdus comme un radeau quand la mer de ma tristesse se déchaîne, renifler les mailles de l'étoffe de notre histoire, sentir à nouveau la caresse d'une fin de journée ensemble et la douceur d'un réveil, rassuré par le regard de l'autre posé sur soi. Je voudrais me moquer de la concordance des temps et faire d'un passé perdu un présent retrouvé. Je voudrais que me chahutent sans fin les couleurs, les odeurs, les mots, les sensations, les frôlements, les frissons de ce temps vécu ensemble, hier. Ne rien égarer.
C'est beau.
Je parle pareil à ma femme.
Ouais,
voilà. Ce soir.
Elle a de la chance.
Ouais. Ensuite, donc là c'est sur la fin du roman. J'ai mal à la vie, je souffre de ton absence, du manque de ton souffle sur mes jours et sur mon corps. Tout entier, je te réclame à corps et à cri. Je me bannis, me renferme, je sculpte en creux ce qui en surface a fondu et s'est dissous. Je vis davantage à l'intérieur de moi pour m'évader du néant de l'extérieur. Je t'installe confortablement entre tous les plis de mon âme depuis que tu n'es plus de ce monde. La solitude ne me pèse pas, je la cultive au contraire. Il me faut voyager en moi et surtout pour l'heure n'y croiser personne.
Très beau.
Mmh. Et tout est comme ça, quoi. Voilà.
Ouais.
Mais merci,
c'est
Elga,
pour ça que t'as pas
super,
de pause, en
vois,
fait,
mais...
entre la tristesse, quoi. C'est,
ah, oui, oui,
la
oui,
tristesse,
oui.
T'as toutes les phases du deuil, en plus, mais t'as pas de pause où ça va être d'un coup, il dit « je fais mon café » et c'est tranquille, quoi. C'est pas du tout
après,
ça, quoi.
Après, il y a aussi ouais. le côté, c'est-à-dire que c'était une histoire d'amour homosexuel. Lui, son copain, donc, qui est décédé, c'était un homme très discret qui voulait pas que leur histoire d'amour se sache. Et il y a tout ce moment aussi où David Lelay, donc, il va rencontrer la mère de son copain qu'il n'a jamais vu de sa vie. Ils se rencontrent pour la première fois dans une circonstance extrêmement horrible. Mmh. Et voilà, il y a toute cette dimension-là aussi. Avec la maman, ça se passe très bien. Avec la sœur, pas trop. Enfin, voilà, c'est des...
Et ça commence comment ? Parce que pour que tu puisses avoir une attache avec David Lelay, justement...
Ça commence avec il est dans le train, il tient l'urne funéraire et il l'amène en Bretagne chez la maman qu'il n'a jamais rencontrée. Voilà.
D'accord.
Ouais. Ok, merci. Merci, Héloïse.
Tu ne veux pas nous mettre un petit coup de compagnie créole, là ?
Je vous l'avais dit, mais écoute, on ne veut pas m'écouter. Ok, merci, Héloïse. Je t'ai pas rajouté de points parce que ça ne sert à rien. Ça y est, on est à la bourre, c'est pas possible, ça. Mais on va un peu déborder. Vous êtes pressé ?
Non.
Plus. Allez, super. Valérie ?
Ouais. Allez, je vais prendre le plus petit livre
voilà,
en taille.
Voilà, t'as que des livres avec des dessins.
Oui, c'est pour ça. Alors celui-là, il y a très peu de dessins, bizarrement, puisque c'est un livre de Sophie Kahl. Alors, d'abord, est-ce que je dois dire de qui il vient ?
Bien sûr.
Ça m'a été hyper compliqué.
Et oui,
alors
j'imagine.
Ça, c'était très féminin, en fait, dans la couverture, donc ça pouvait être toi, Ludo.
Oui.
Ça pouvait être toi.
C'est ça.
Voilà, c'est toi.
Non,
je sais pas. Je pensais pas à toi, Elga, mais apparemment, je me suis pas trompée vu que t'as amené ton livre avant-hier. Mais j'ai longuement hésité entre Pauline et Héloïse. Je vais dire Pauline.
J'adore Sophie Kahl,
mais c'est pas moi.
Ouais, ça c'est bon, ça moins un. Allez, continue.
Non, mais c'est vrai qu'on aime toutes les deux.
C'est qui alors ?
Non, mais parce que je plaisantais en disant c'est très féminin, donc c'est peut-être toi, mais j'hésitais entre Pauline et Héloïse.
Donc c'est Héloïse.
Ouais, je savais pas trop.
Allez, tu marques moins un quand même.
Ouais, mais tu peux me mettre moins un, mais tu peux me mettre encore un moins un parce que je vais me fâcher avec Héloïse pour les 20 prochaines années. Parce que j'ai pas réussi.
Réussi. Eh ben, tu peux ne pas réussir.
En fait, Sophie Kahl, c'est une artiste plasticienne. Elle fait de la photo, elle écrit beaucoup de textes, elle travaille beaucoup sur l'intime et l'histoire des gens, les souvenirs. Et donc, j'ai choisi un livre parmi la dizaine que j'ai qui font tout à peu près cette taille. Donc, du coup, peut-être que celui-ci, tu ne l'aurais pas aimé, mais d'autres, oui. Donc, on va pas se fâcher.
Ben, en fait, donc déjà, ça, voilà, voilà rassurée.
Tout le monde a dit que tes livres étaient un peu pourris.
Oui, non, mais après, j'assume.
J'ai rien dit, j'ai pas dit pourri.
Tu peux balancer, vas-y.
J'assumais clairement. Non, mais alors, du coup, quand je l'ai feuilleté plus que je l'ai lu au départ. Et je me suis dit, mince, mais pourquoi est-ce que j'ai ça à lire, en fait ? Je comprenais pas. Et je me suis dit, attends, d'abord, tu vas relire vraiment des choses sur Sophie Kahl, parce que vous en aviez déjà parlé, les filles. Donc, j'ai relu un peu sa biographie, j'ai fait du Wikipédia +++. Et je me suis dit, mince, quand même, la femme, elle est chouette, quoi.
Quand tu t'en apprennes,
voilà, une de ses idées, c'était quand même de suivre les gens dans la rue, de tout noter son quotidien. Elle a invité des gens à passer, à dormir chez elle, des inconnus, pour les photographier, pour capter l'intimité des gens. Enfin, elle a eu des projets assez fous. Je me suis dit, bon, allez, reprends-le. Et là, j'ai repris le livre et en m'imprégnant de qui était l'auteur,
Déjà, j'ai trouvé ça un peu mieux, mais malgré tout, j'ai pas réussi. Donc là, l'idée, c'était, elle parle de tous les tableaux, de certains tableaux qui ont disparu. Donc soit ils ont été volés dans une galerie, soit la galerie a brûlé, soit on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Et elle,
ils ont disparu de la face du monde. Ouais. Plus personne ne les verra jamais.
Voilà. Et donc elle, l'idée est super synopsis, en fait, c'est ouais. ça. Et elle, super. Elle cherche à redécrire, donc à dépeindre en fait en écriture
ces tableaux qui ont disparu,
le tableau qui a disparu. Génial. Et l'idée est super, mais je suis vraiment désolée, j'ai pas pu rentrer dans le texte.
Elle cherche à dépeindre, c'est qu'en fait elle interroge les gens dans le musée où le tableau a disparu, ou elle interroge les gens du souvenir qu'ils ont en fait de cette image qui a disparu à jamais. Et en fait ça donne des... elle a fait ça aussi dans Berlin-Est, c'est-à-dire qu'il y a plein de monuments communistes qui ont disparu dans Berlin-Est. Et donc, ou qui ont été détruits, etc. Et quand les gens passaient devant, elle leur a demandé « Mais vous vous souvenez de ce qu'il y avait là ?» Et ça donne des réponses très différentes. Et c'est sur ce même, sur ce même mode, en fait, c'est-à-dire comment on construit un souvenir totalement biaisé par rapport à ce qu'était la réalité. Je trouve ça intéressant.
Oui, mais l'idée est géniale. Et là, par exemple, elle est avec une... comment on dit, les gens qui sont à l'entrée quand tu vas visiter un musée, il y a toujours des gens, des gardiens. Ouais. Ouais. Et quand elle dit... voilà, la dame, elle dit « J'ai pas consacré beaucoup de temps à ce tableau, je regardais toujours le Vermeer d'à côté. » Il y a plein de petits témoignages comme ça. Voilà, ça va être la femme de ménage, ça va être le gardien, ça va être le conservateur.
Et c'est le même musée ou pas du tout ?
Non, c'est plusieurs. Enfin, si j'ai bien suivi, c'est plusieurs endroits. Et chaque fois, elle précise. Elle précise, là, par exemple, le 3 janvier 1994, un tableau de Picasso fut dérobé chez Richard Gray à Chicago, devant le dessin de Jean Dubuffet, qui a pris sa place sur le mur. J'ai demandé à tous ceux qui l'avaient côtoyé de me décrire l'œuvre disparue. Et elle explique que chaque fois, tu peux avoir une photo de l'œuvre et après, ben, y a la description de... là, c'est un tableau qui s'appelait Tête. D'ailleurs, celui qui l'a volé serait prié de le rendre à son propriétaire.
Après, Valérie, je t'en prêterai d'autres, du coup, tu verras. Ouais. Peut-être qu'il y a, des projets qui te toucheront plus.
Voilà, mais là, je pense que j'aurais dû, faute à moi, j'aurais dû peut-être plus m'intéresser à elle avant de m'intéresser.
Non, mais c'est
de ma
faute, j'ai pas choisi peut-être le plus abordable.
Non, mais attends, c'est sûr. Mais, par contre, voilà, ça a apporté ma curiosité, parce que je me suis dit, faut pas le lire brut de décoffrage, et si tu sais pas qui elle est, effectivement, tu comprends pas pourquoi.
Justement, Valérie, dis-nous quelques mots rapidement sur cette auteure, parce que tu nous dis, je me suis renseignée sur elle, d'être une personne extraordinaire.
C'est ça,
mais
c'est quelqu'un, moi j'ai aimé le fait, elle est partie un petit peu voyager, enfin elle était gardoise, elle est née à Paris, mais elle a vécu à Aigues-Mortes, donc imprégnée quand même de son sud, enfin elle était très attachée, et après elle est quand même partie voyager plusieurs années, mais pas voyager, faire juste du tourisme, elle s'est impliquée dans beaucoup de... Je regarde Pauline et Héloïse parce qu'elles aiment beaucoup.
Elle s'est impliquée dans des trucs pro-palestiniens. Une œuvre d'art, c'est une artiste contemporaine qui a été exposée à la Biennale de Venise il y a quelques années. Elle
c'est quoi, une peintre, une sculpteuse?
Ah non, c'est
de la performance, des choses comme ça.
Pas de la performance, parce que...
C'est
une
Yoko Ono,
contemporaine.
Quoi.
Elle fait beaucoup de choses. Par exemple, elle s'est fait engager dans un hôtel à Venise. Comme femme de chambre, alors qu'elle était artiste, etc.
Et elle a loué une pièce, elle regardait par-dessus.
Elle fouille dans les affaires des gens et elle essaye d'imaginer ce qui leur
fait. C'est dégueulasse, ça.
On va pas revenir sur tout ce qui touche à l'intimité,
très là-dedans. C'est peut-être le plus loin possible.
Elle va venir dormir avec toi pour te prendre en photo, pour percer.
Moi, un jour, j'ai loué. J'étais dans un hôtel à Barcelone, on m'a piqué mes clopes. Elle y était peut-être.
C'est peut-être elle, en fait. Hein.
Elle pique jamais rien, mais si ce n'est des souvenirs des gens et des petits bouts de la vie des gens. Et moi, je trouve ça très sensible. Par exemple, elle a amené des personnes en... Il faut que j'arrête de parler de Sophie K.
Oui, mais parce qu'il va falloir qu'on passe à la suite.
Et elle a fait un projet, ils n'ont jamais vu la mer. C'est des gens qui habitent à Istanbul et qui n'ont jamais vu la mer. Et elle les confronte à la mer.
Elle capte l'émotion de leur première fois devant
la
mer.
Elle les amène.
Il y a la mer à Istanbul.
Elle les prend en photo. Et oui, mais ils ne l'ont jamais vu.
Bah pourquoi ?
C'est possible,
parce qu'ils restent dans leur maison, dans leur quartier. Tu vois, il y a des gens.
Ça, c'est possible.
Il y a des gens qui habitent à Paris qui n'ont jamais vu la Tour Eiffel, sans doute. Tu vois, c'est pareil.
Quand même.
Oh là là.
Bon, voilà. Et du coup, t'as déjà été à Nosac,
au lac ?
Oui. Ok. Ah. Mais oui.
T'as déjà visité les grottes de Malaval ?
Non.
Eh ben voilà, on y est.
Oh, c'est pas pareil.
Ah, c'est pareil.
Allez, merci Valérie. Merci Louise. Allez, Popo.
Bon, super vite alors, je dois aller, c'est ça ?
Non, on a dit qu'on avait le temps qu'on pouvait déborder.
Comme Yoda, super vite, je dois aller.
Alors, bah, écoutez, moi, je croyais que j'avais le propriétaire de mon livre. J'étais sûre, c'est Valérie, il n'y a aucun doute. Mais alors, je remets tout en question, là, maintenant.
Ouais, ça commence à être compliqué.
Te laisse pas faire. Non, non, non. Reste sur ta première impression, parce que ça...
Non, parce que du coup, je vais dire que c'est toi.
Je ne sais pas quel livre tu as.
Celui-là, Tendre jeudi.
C'est bien. Tu marques un point, tu redescends à moins deux.
Alors, moi, juste après L'arrache-cœur, Tendre jeudi de Steinbeck. C'était merveilleux, mais j'ai trouvé ça, j'ai passé un super bon moment. Ça se passe dans une petite rue américaine, la rue de la Sardine. Donc, c'est le tome 2 d'un bouquin.
C'est la suite de la rue de la Sardine.
Je me suis dit, je vais appeler, mais en fait, je ne savais pas qui appeler pour le tome 1. Donc, je me suis lancée quand même. En fait, il n'y a pas de souci parce que ça suit tout à fait de manière isolée. Et donc, on voit la petite vie de cette rue qui tourne. Alors, pour ce tome-là, je pense pas que ce soit la même chose pour les autres. C'est autour de Doc. Donc, c'est un personnage de cette rue qui est zoologiste, qui fait de la culture, notamment d'étoiles de mer pour les étudiants, qui les tuent à différents stades de leur vie. Enfin, c'est pas du tout malsain, hein, c'est vraiment de... Et donc, il est dans une période où il va pas bien. Et donc, il a toute cette petite vie qui tourne autour de lui dans cette rue-là, qui va essayer, en gros, de l'aider. Donc, on a des tas de personnages attachants, rigolos, sympas, qui passent des moments à discuter, bon, beaucoup de Doc, donc qui va pas très bien, mais aussi de leurs souvenirs du passé, de la vie qu'ils mènent actuellement. Je vais aller vite, du coup, j'arrive pas à aller loin.
Prends le temps,
les auditeurs.
Voilà, pour une fois que t'as un livre gay, vas-y.
Ah, et puis un livre vraiment gay et tendre jeudi, c'est tout à fait ça, parce que c'est vraiment un moment plein de douceur. Il se passe rien de très particulier. Ça tourne vraiment autour de comment on va sauver Doc, mais il n'y a pas de grandes choses. C'est juste toute cette petite vie de cette rue avec toutes ces personnalités qui ont chacune un petit côté soit un peu loufoque, soit un peu juste sympathique, tendre, gentil, généreux. Enfin, chaque personnage a un côté extrêmement touchant. On a tous envie de les rencontrer. On a envie d'aller boire un whisky chez eux, d'aller boire une bière chez eux parce qu'ils boivent beaucoup.
C'est ça.
Et c'est vraiment un très très bon moment. J'ai adoré. C'était génialissime.
Et ça se passe où, aux États-Unis?
C'est un endroit inventé.
Ça doit être le Connecticut ou quelque chose comme ça.
C'est une grande ville ou c'est dans la campagne?
Petite ville de bord de mer.
Bord de mer, ouais. Je sais pas si c'est pas vers San Francisco. Je crois que c'est vers San Francisco.
D'accord.
En fait, pourquoi ce livre? Parce que j'adore Steinbeck et c'est vrai que c'est un écrivain touchant. On l'a vu dans Des souris et des hommes, dans d'autres livres. Et ça, c'est le livre le plus drôle qu'il ait écrit. C'est extrêmement drôle tout en étant touchant. Passage. Donc il y a tout ça. Le premier livre est je préfère Rue de la Sardine que Tendre jeudi. Rue de la Sardine était un peu plus gros, donc je n'ai pas voulu le donner. C'était plus long à lire. Mais celui-là est plus drôle que Tendre jeudi. Tendre jeudi, le Rue de la Sardine, le concept, donc c'est des personnes qui héritent d'une maison avec des barriques de vin, donc ils passent leur temps à boire le vin dans la barrique.
Oh, génial.
Enfin, et c'est Steinbeck, quoi. On n'est pas dans du Dan Fant ou des écrivains alcoolos. Et tout le livre, voilà, ils sont dans la. Ils cherchent à faire quoi de leur vie, peut-être à vendre le vin pour se faire de l'argent. Et en fait, ils s'invitent les uns les autres dans cette maison, ils finissent par boire tout le vin. Et c'est extrêmement drôle. Et donc, il a donné une suite avec Tendre jeudi, où on suit tous les personnages, c'est les mêmes que Rue de la Sardine, mais 20 ans après. Et il est encore plus drôle, ce livre, encore plus touchant.
Il est touchant. Et oui, c'est aussi très drôle. Je ne l'ai peut-être pas fait ressortir, mais il y a des passages, vraiment, des personnages. J'espère. Hazel, un des personnages qui est un peu, on va dire, l'idiot du village, il dit c'est celui qui... Tout le monde lui parle parce que tout le monde sait qu'il n'écoute pas. Tout le monde lui dit... donc la maquerelle du village va lui faire son horoscope et va lui annoncer qu'il va devenir président. Et ça va le hanter tout le long du livre parce qu'il a la trouille, il se sent super mal, il ne sait pas comment il va faire. Et toutes ses réflexions, c'est génial, il essaye de se préparer, mais il ne sera jamais prêt, c'est impossible. Et voilà, t'as toutes ces petites histoires en plus un peu parallèles qui sont super drôles, des discussions qui sont... vachement sympa, enfin, c'est très très chouette, vraiment. Super. Je conseille même tout seul, voilà, bon, lire tout, lire les deux, c'est sûrement encore mieux. Mais
bah, je te prêterai le premier.
Oui, je pense, ouais.
Du coup, je te prêterai le premier. C'est un peu dans l'esprit de Tortilla Flat aussi, mais ce sont d'autres personnages, il me semble. J'ai plus trop de souvenirs, mais voilà. Après, c'est deux livres et c'est l'amitié aussi. Voilà, c'est une bande d'amis. C'est nous, on se retrouve, on hérite d'une maison. Qu'est-ce qu'on fait? On vit tous ensemble. Bon, on va boire du vin avant pour réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire. Et il y a plein de personnages en couleur, plein d'histoires qui s'entremêlent, et c'est extrêmement drôle, extrêmement bien écrit, parce que c'est Steinbeck. Ouais. Donc, et vraiment, ouais, je les conseille. Tortilla Flat, Rue de la Sardine et Tendre Jeudi. Vraiment, il faut les avoir dans votre bibliothèque.
Steinbeck, de toute façon, on peut que le conseiller.
Ok, merci à moi. Et donc, je suis tombé sur un livre de Popo qui est... alors, je ne sais pas, parce que je partais sur Valérie aussi, je suis comme toi. Et Valérie
arrêtez
qui commence à dire...
Arrêtez de vous mettre coupable de tout, quoi.
Valérie qui en a parlé... non, je vais rester sur Valérie, alors. Ah. Des souris et des hommes de John Steinbeck. Valérie ?
Étant donné que je ne sais pas mentir, je suis obligée de dire que oui, c'est moi.
Je vais être bien. Alors, il faut savoir que grâce à notre jeu, on va pouvoir choisir... enfin, les premiers de ce jeu vont choisir les livres de la prochaine émission avant les autres. Ce qui est important, parce qu'il y a des livres très, très longs à lire et d'autres beaucoup plus courts. Et Ludo, il a 2 points.
Okay. Tu as égalité avec Popo.
Que Ludo gagne
non,
ou pas.
Non, elle a moins 2. Non, elle a moins 2. Une égalité.
Il faut dire que tu gagnes ou pas un jeu, tu choisis toujours en premier les plus courts. Hein, donc,
oui, mais là, j'ai une légitimité.
Et on te laisse toujours les livres les plus courts.
Ok, donc j'avais donné Tendre Jeudi par rapport à Steinbeck pour pas donner de livres comme Les Raisins de la Colère ou Des Souris et des Hommes.
Donc tu l'as déjà lu en fait.
Que tout le monde connaît, que j'ai bien entendu lu, qui nous raconte l'histoire de deux personnes, George Milton, un homme plutôt petit, et Lenny Small, un homme grand mais un peu simplé, deux amis d'enfance qui errent sur les routes de Californie, qui travaillent de ranch en ranch. Un livre... j'imagine et j'espère du fond de mon cœur que tout le monde a lu.
J'ai jamais lu Steinbeck.
Tu le prends en partant. Ouais. Tu es obligé de le prendre.
Mais je suis sûre que j'adorerais.
Tiens, je te le prête.
Merci.
c'est un livre très très beau, bien sûr, sur une histoire d'amitié entre deux personnages qui n'ont rien à voir. Une personne qui couve un peu l'autre, qui est un peu... idiot, on pourrait dire. Il est intellectuellement déficient. Il aime surtout caresser les choses qui sont douces.
Douces, ouais.
Voilà. Et jusqu'au jour où il caresse les cheveux de la fille ou la femme.
Oui, je crois que c'est la fille de l'employeur, enfin de leur...
oui, non, c'est sa femme. le fils du patron, voilà, la belle et jeune femme du fils du patron, il caresse ses cheveux parce que c'est doux, et là, la femme prend peur, et lui prend peur, et il la tue accidentellement, et donc tout le monde va le rechercher pour le faire payer.
Grave.
Mais c'est marqué sur la quatrième de couverture.
Bon, elle lit pas les quatrièmes.
Et tout le monde va le chercher pour lui faire payer ce meurtre, et Lenny, son copain, son copain va le retrouver au point où s'il y avait un problème, il s'était donné rendez-vous. Et là, on attend. Voilà. C'est un genre de huis clos, hein, on peut dire ça. Ça se passe dans un ranch fermé. Et c'est très, très, très fort en émotion. Donc, de toute façon, moi, j'adore Steinbeck, j'adore ce livre. C'est pas mon préféré de Steinbeck parce que j'aime toujours, je suis un peu en marge, j'aime les livres un peu moins connus et qui sont un peu underground et qui montrent une autre face de ces auteurs. C'est pour ça que j'ai proposé Tendre Jeudi, mais bon.
À partir du moment où c'est publié au livre de poche, ce n'est pas underground.
J'avoue. Bim. D'accord avec
Eh oui, mais c'est Steinbeck.
Les libraires en parlaient.
Oui, mais après, tu parles au grand public et tu dis Rue de la Sardine, tu connais sur tes 10 prochaines personnes qui vont rentrer dans la librairie, Rue de la Sardine et Tendre Jeudi, demande qui est l'auteur de ces livres, on va voir.
D'accord.
Et tu demandes.
Même Des Souris et des Hommes. Hein,
Et après, tu demandes Des Souris et des Hommes aussi parce que c'est étudiant en classe, Des Souris et des Hommes.
Toi,
tu n'as pas fait d'études, donc tu ne l'as pas lu, Elga.
Oui, bah, c'est ça, mais mais demande à d'autres personnes, je pense que des hommes et compagnie.
Avec ton bac plus 8. Ouais, merci Valérie de me faire marquer un point.
Bah, écoute, avec grand plaisir.
Ouais.
Allez. Tu l'as relu ou pas du tout?
Non.
Non, tu ne l'as pas relu.
Oh, Ludo.
Là, il est super.
C'est pour ça qu'il était tellement content quand il l'a pioché.
C'est ce que j'ai dit à Eloïse. J'ai dit, tiens, c'est un auteur que j'ai proposé, c'est un auteur que j'ai déjà lu.
Mais pourquoi tu aurais dû piocher autre chose? T'es petit joueur, moi je vote quand t'enlèves un point.
Non.
Même 4.
Elle est radicale, Pauline.
Pour Popo. Non, non. Allez, Héloïse.
Alors, moi, je suis tombée sur un super livre, mais bon, je ne vais pas en parler longtemps parce que c'est un livre qui se savoure et qui se regarde plutôt. Il ne faut pas trop en parler, je pense. Donc, c'est un livre qui fait pleurer de rire après un livre qui fait pleurer réellement. Donc, c'est Olivier Talec, un illustrateur qui a écrit Bonne journée. Mmh. Alors, je ne sais pas qui a donné ce livre. Je dirais Popo.
Oui.
Ah
oui, oui.
Ah, elle remonte, elle égalise.
Donc, Olivier Talec, il a un talent fou pour, en peu de choses, en quelques lignes, en un petit dessin et une petite phrase, à faire mourir de rire et à recréer une situation. Enfin, c'est assez irrésistible comme livre. Donc, les expressions, particulièrement des personnages, des animaux qui peuplent ces pages, sont particulièrement réussies. Et chaque page, en fait, est une petite pépite. Donc, c'est un livre qui fait vraiment du bien et qui, comme le titre l'indique, fait passer une bonne journée. Quoi. C'est, tout le monde devrait avoir ça pour se rebooster un peu le moral le matin ou le soir. Et donc, je ne sais pas, je vais peut-être vous décrire une image brièvement. Tout m'a fait rire, donc c'est difficile de choisir. Ouais, il y a ça.
Il y a ça
aussi.
Non, mais là, par exemple, c'est juste un dessin sans légende ni rien. C'est un appartement bourgeois avec des tableaux au mur, même catholique, puisque je vois qu'il y a une croix, des grands tapis, etc. Et donc, c'est monsieur avec son pull jacquard qui tient un livre avec marqué Yves Klein dessus. Il est un peu bedonnant. Il a peint sa grosse dondon, sa grosse femme en bleu, qui se tient devant une feuille blanche. Et du coup, il est en train d'essayer de recréer le fameux nu d'Yclin bleu, en fait. Mais dans cet intérieur bourgeois, ça,
génial.
C'est totalement décalé. Voilà, et il y a différentes situations. Comme je vous dis, ça peut être avec des animaux, ça peut être... et c'est hyper drôle. Voilà.
C'est un cadeau qu'on m'a fait et que j'ai trouvé fantastique. Mmh. Et
génial.
Je me suis dit que
mais
ça plairait à peu près tout le monde
des
ici,
enfants,
en fait.
Alors. C'est une...
Non, parce qu'il y a certaines références quand même. Non, mais même à un moment donné, il y a une poule et un coq. La poule, elle est allongée par terre au seuil de l'étable. Mmh. Et le coq qui est en train de la regarder perplexe, et elle dit « Prends-moi comme un auroch. » Voilà, donc non, c'est pas pour les enfants.
On t'offre pas que des livres sur la Shoah, en fait.
Eh non,
c'est bien ça.
Il y a des gens qui m'aiment bien.
Voilà. C'est à quelle maison d'édition
Rue de Sèvres.
Allez, super. On finit par Valérie.
Helga, là, non, je crois qu'elle a
envie d'en parler. Ah, Helga, pardon, avant. Excuse-moi.
J'ai envie d'en parler parce qu'il est très chouette. Et je sais qui l'a mis dans la boîte.
Mais il vaut mieux parce que pour l'instant, t'as moins un. Donc,
ouais. Alors, je vais vous parler de Céline, une sélection de ses lettres donc, qui sont réunies sous le nom « Lettres à la NRF », choix entre 1931 et 1961.
La bonne époque de Céline.
C'est Héloïse qui l'a donnée. Parce qu'Héloïse adore Céline, donc c'était simple.
Moi, j'adore Céline aussi. Hein.
Je ne savais pas. Je sais qu'Héloïse l'adore, donc...
Son écriture.
Non, mais ses lettres en particulier, enfin, je sais pas, moi...
j'ai jamais lu Céline.
Ça, j'ai jamais lu Céline.
Sachant que tu nous en as parlé il y a pas longtemps,
c'est
des
vrai,
lettres
j'en ai déjà parlé
à Céline à une émission.
Ah, bah, je me souviens plus.
Non, mais c'était facile parce qu'en plus, ses lettres à la NRF, c'est l'ancien nom de Gallimard, donc Héloïse adorant Gallimard, il y a Gaston qui parle, quoi. Donc
les lettres de François Mitterrand, quand il y avait eu le gros livre, t'en avais parlé sur cette occasion.
Voilà.
Donc là, en fait, on va suivre un choix de lettres pendant 30 ans. Du premier envoi de Voyage au bout de la nuit à Gallimard, qui ne l'a pas publié, jusqu'à en fait la mort de Céline, où il envoie une dernière lettre où il dit « Mon cher éditeur, je vais vous envoyer un bouquin ». Et en fait, le lendemain, il est mort. Donc voilà, super, mais voilà.
Est-ce que son bouquin a vu le jour à titre posthume?
Oui, ça s'appelle Rigaudon. Et en fait, d'accord, même Céline explique dans les lettres qu'il veut que rien ne soit publié posthume, sauf qu'il avait plusieurs contrats en cours qu'il avait signés de son vivant, donc ça a été publié après sa mort. Notamment l'édition Pléiade et Rigaudon. Donc, on commence avec la première lettre en 1931. Céline envoie Voyage au bout de la nuit, donc en manuscrit à Gallimard, et il explique c'est le prochain concours. Il est sûr de lui. Et Gallimard tarde un peu à répondre, à sélectionner le manuscrit. Il leur dit ça serait à élaguer, donc un peu revoir des trucs. Mais Céline, il ne veut pas du tout changer son manuscrit. Donc finalement, il signe un contrat avec De Noël en 1932 et il n'a pas le concours. Donc c'est un peu le sort qui s'acharne contre lui.
Bon, c'est quand même la deuxième plus grosse erreur de Gallimard, quand même, de refuser Voyage au bout de la nuit.
Après Proust, après Céline, il y a aussi eu Joyce, il a refusé Joyce.
Il a refusé donc, Joyce
ils
aussi.
Ont fait quelques erreurs, Gallimard, qui de sont quoi, assez notables. Ouais.
Et ouais, Proust, ouais. Il avait refusé quoi
le, la recherche.
Le thème de la recherche.
D'accord.
Qui avait été un succès nul. Monstre, quoi. Bon, il n'a pas fait beaucoup d'erreurs.
Enfin, Proust, j'ai jamais lu. Hein. Ça me fait peur. Non, c'est vrai.
Donc, en fait, on va trouver beaucoup de lettres de Céline qui proviennent des archives Gallimard. Aussi, quelques réponses, notamment de Jean Paulhan, qui a été son éditeur pendant assez longtemps, jusqu'à ce qu'il se fâche avec Céline et il ne répond plus. Puis ensuite, des lettres de Gaston Gallimard, donc le célèbre éditeur, de son fils Claude, et après aussi de Roger Nimier, qui va reprendre la publication des œuvres de Céline en 1956. Céline, dans ses lettres, se montre comme un personnage compliqué, qui est à la fois prétentieux et agaçant, qui se fait passer pour modeste et une petite victime, en fait, de « on m'aime pas, les gens, ils ont pas compris mon génie, gna gna ». Enfin, moi, j'ai eu envie de le tarter, quoi. Le mec, mais... j'ai envie de le baffer, de lui dire « mais arrête ».
C'est assez bien
En fait, il passe son temps à dire qu'il est haï par le public, parce que notamment il a écrit des choses antisémites, donc du coup ça lui a fait perdre beaucoup de crédibilité auprès du public, notamment dans Bagatelle pour un massacre. Et ensuite, il est persuadé de son génie en fait. Il passe son temps à dire que Gide, Genet, Faulkner, Dos Passos, tous les gens édités chez Gallimard en fait, bah c'est nul, ils ont rien inventé, alors que lui il porte une forme de roman merveilleuse. Donc voilà. Donc,
il s'emballait un peu, ouais.
C'est ça.
Parce que mais en fait, pas, c'est super drôle aussi, parce que dans ses insultes, dans
c'est
sa
très drôle parce
haineuse,
que...
c'est drôle.
Ouais. Et en fait, c'est dingue parce qu'il parle à Gallimard. C'est la plus grande maison d'édition française depuis sa création. Et Céline n'a aucune pudeur, aucune retenue, quoi. Il l'appelle le désastreux épicier. À un moment, Nimier lui dit...
c'est bon, ça.
Gaston est triste de ne plus recevoir d'insultes, tu vois. Donc en fait, ils ont une relation... de je vous admire, mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de vous dire que vous êtes un con. Et il le dit clairement, et il va passer son temps à dire il faut que j'ai 2 millions sur la table maintenant, un contrat pour la Pléiade, un contrat pour le Poche, et ça, et ça, et 500 par mois et compagnie. Il exige 12 000 choses que Gallimard ne lui cède pas forcément, mais qui répond toujours avec. Beaucoup d'humour, quoi. Il est toujours « Oui, mais je sais, je vous admire et il faut surtout pas me prendre pour... » Enfin, voilà. Donc, c'est très drôle. Et on voit déjà toute la verve de Céline, toute son écriture où il ose tout et il est pas politiquement correct, quoi. Je pense que c'est une notion qu'il ne connaît pas, ça.
« Voyage au bout de la nuit » a marché quand il est sorti ou il a fallu attendre plusieurs années
non, non. Et même,
ou décennies ?
En fait, il a fallu attendre 56 quand Roger Nimier a fait des efforts... de publicité et compagnie,
56.
Et même auprès des libraires pour que les
il
gens...
Il a écrit quand en 30...
32, le voyage
en 32, ah ouais.
Bagatelle pour un massacre, c'est en 37 et c'est juste avant la guerre et là, c'est pas passé du tout. Il a été emprisonné, il a dû s'exiler au Danemark et compagnie, donc voilà.
Là, c'est le problème
donc,
de
le public
de Céline,
a mis du temps à connaître Céline, mais en même temps, il y a eu des très beaux succès d'édition, quoi. Nimier donne des chiffres à un moment et le voyage, ou même d'un château l'autre, c'est un des meilleurs titres qu'ils vendaient à l'époque. Et c'était pas en poche, quoi.
Et Louise réagit avec ses mêmes.
Oui, et Louise, à 2 jours de la présidentielle, veut parler de Céline. Vas-y.
Sure.
Non, mais Céline, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un personnage... Je nie pas, en fait, c'est vrai, son état d'esprit vraiment douteux pendant la Seconde Guerre mondiale. Je dis juste qu'il y a des faits aussi, c'est-à-dire qu'il était médecin. Il était médecin avant d'être antisémite aussi. C'est-à-dire qu'il a aidé ses voisins, ça fait une famille juive qui habitait en dessous de chez lui pendant la Seconde Guerre mondiale. Même s'il allait boire des cocktails avec les SS à Paris.
Il n'y a jamais eu de preuves qu'il a collaboré, en fait, tu vois. Il n'y a jamais eu de preuves. Il était dans les milieux allemands, mais on ne l'a jamais vu dénoncer quelqu'un, faire ce genre de choses.
Il a aidé aussi des juifs.
Mais
il
y a eu des livres.
Ses voisins, ni rien. Enfin, voilà,
il y a eu des livres où on l'accuse d'avoir fait les pires choses, quoi. Alors que c'est pas comme Brasillac, quoi. Brasillac, à la Libération, il a été fusillé ni une ni deux, quoi. Et de Noël, pareil. Son éditeur, lui, il s'est fait du fric par rapport à ça et il l'a payé, quoi.
Ou comme Knut Hamsun, que j'adore, cet écrivain norvégien qui a été aussi... Voilà, mais là, on est là pour juger l'écriture, les histoires
qui sont racontées. On juge l'écriture,
et
lui, il en parle.
Et Céline, c'est un des plus grands écrivains
pas,
français,
même là,
c'est
après,
sûr.
Après la guerre, il dit tous les youpins, les enculés de Gallimard et tout. Il a toujours cet esprit contestataire. Et il l'aura toujours. Et je pense qu'on n'aura jamais changé Céline, quoi. Donc, de toute façon...
Alors, si le CSA hésitait à nous attaquer par rapport à la présidentielle, pour les propos vulgaires que tu tiens, on risque d'avoir des problèmes, le gars. Merci beaucoup. Donc, très bien. Hein ? Tu votes...
très bien.
Très bien.
Bah, moi, ça m'a donné envie de lire Céline.
Voilà. Eh bien, je te le conseille aussi.
Quand t'auras pas le choix dans quelques temps.
Voilà. Oh, Valérie, tu arrêtes.
L'apocalypse est proche.
Pessimiste.
Ah, d'accord, mais
l'apocalypse,
elle est
arrive.
Raëlienne, Valérie.
Bah, j'étais la saliste, je deviens raëlienne.
Ouais, je suis sûre que Céline n'aurait pas aimé MLP.
Tu penses ?
Non, je pense que non.
Céline, des fois, il me fait penser à Finkielkraut, en fait.
Ah non, 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 non.
Ah non, non, aucun rapport.
Non,
sur
franchement.
Sur
le propos...
Il est beaucoup plus touchant.
Par contre, ta plume autour du cou, c'est parce que t'es joli. Dans le premier cercle des raëliennes.
C'est ça.
Je l'ai vu à la télé.
T'as eu un cours de poterie,
un
de
cours
céramique.
De peinture sur, oui. Sur porcelaine de Limoges.
Charmant.
Voilà, c'est moi qui l'ai fait. Mais comme je vous disais, l'apocalypse est proche. C'est beau, hein. L'apocalypse arrive et allez. Je voulais remercier Pauline.
Oui,
cette apocalypse. Est-ce que j'ai gagné un point ?
Ah ben t'es à plus un, ouais.
Ouais, c'est cool. Et
mais plus un sur trois livres.
Bah c'est déjà pas mal. C'est déjà mieux qu'au moins deux sur deux livres.
C'est sûr.
Bah, c'est tu parles. Mais vu que la BD est super, on peut donner un point à Pauline. Alors c'est New York. Je vais pas vous mentir, je l'ai lu ce matin au petit déj. Parce que je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas pris le temps de le lire. Bon, j'en avais deux autres à lire. Je dis tant pis, je le squeeze. Et en fait, ce matin, je l'ai lu. Je me suis dit, oh mais nul. Pourquoi tu l'as pas lu avant? En fait, c'est super.
Eh oui.
Mais c'est vachement bien. Fallait du tout pas se fier à la première page qui n'a rien à voir avec le reste du livre. En fait, New York, c'est un roman de Stefan Wul, qui s'appelle pas vraiment Stefan Wul dans la vraie vie, mais c'est son nom d'auteur.
Wul.
Ah, mais j'ai du mal, moi, avec tous les noms, avec des W, des H. Là,
On a bien vu, hein.
Ouais, voilà, j'ai un petit... Mais je vais m'y mettre à l'allemand, je vais m'y mettre. Et donc, c'est un auteur de SF qui a repris un roman qui, a priori, est très connu pour les amateurs de SF, qui s'appelle New York. Mais vu que je n'y connais absolument rien en SF, je ne connaissais pas. Par contre, maintenant, bravo, j'ai envie de lire le roman de Stefan Wul.
C'est un petit roman plus jeunesse, ça se lit facilement, ouais.
Bon, bah alors c'est parfait parce que l'histoire de New York, en fait, donc l'apocalypse est passée, on est au 25e siècle. Il y a une tribu qui vit là, ben le monde a été un peu dévasté et un monde un peu souterrain, mais malgré tout qui est bien éclairé par le soleil. Enfin, c'est un peu bizarre, bon, c'est de la science-fiction. Hein. Ces gens-là vivent un peu comme de façon primitive. On pourrait presque croire qu'on est fin de la préhistoire. Ils ont une espèce de vieux qui sait tout dans le village, et ce vieux qui sait tout part régulièrement demander des questions à Dieu. Et en fait, on apprend que quand il va demander des questions à Dieu, c'est juste qu'il retourne. Alors, je sais plus exactement où c'est. Je crois que c'est un Colombie. Non,
je me souviens plus.
Ouais,
il remonte à la surface de ce monde-là, ouais. Et dans un ancien centre commercial, il récupère le rhum qui restait dans ce centre commercial, voilà, qui a été dévasté, mais il récupère les bouteilles, il s'en met plein la tronche et il redescend après en disant « Waouh, j'ai parlé aux dieux et tout ».
Voilà. Faut pas oublier l'essentiel.
Donc
quoi.
Ça, c'était la base et c'est, oui, ça, c'est ça m'a beaucoup
tout
fait.
Alors, le vieux qui
mais grave, hein, mais grave. Mais les autres, ils sont assez naïfs. Et dans ce village, on ne sait pas comment il est arrivé dans la BD, puisque c'est une BD là, il y a un enfant noir. Et lui, il vit à l'extérieur de cette tribu, parce qu'il a été rejeté, mais il observe tout. Et un jour, il va suivre le vieux qui sait tout, et il découvre justement l'ancienne ville qui a été détruite. Il découvre aussi la vérité du vieux, qui par contre a fait une overdose de rhum, sur place et qui est décédé. Il pique le collier totem du vieux et redescend entre guillemets sur la terre, enfin cette nouvelle terre occupée par les hommes, et avec une arme, et s'ensuit le début de l'histoire où le peu d'eau qui reste sur la planète Terre est infesté d'espèces de poulpies dégueulasses, un peu Tchernobyl.
Des
gros poulpes, en fait, des poulpinas. Je sais pas, ça y a pas de nom, donc j'ai essayé de le...
Le gros poulpe comme est un poulpi.
Ouais, ça ressemble à une espèce de poulpe dégueu, alien.
C'est pareil.
Ah non.
Poulpe et calamar, c'est pas pareil.
Ah, c'est pièvre et poulpe, alors.
Pièvre et poulpe, voilà. Enfin, un animal, un animal qui vit sous l'eau.
Sinon, ça
aurait
le même nom. Sinon, ça a le même nom.
Voilà, donc ces animaux-là, en fait, ils en ont pêché. Les gens du village en ont mangé un. Ils ont le corps qui devient translucide. Enfin, c'est voilà. Et
Et le premier tome va s'arrêter au moment où c'est que le gamin revient avec le totem du vieux qui sait tout, avec les habitants du village qui réalisent qu'il y a ce danger-là. Voilà, et plein de petites aventures qu'a vécu donc l'enfant noir qui, on le devine, donc s'appelle Njork, comme le titre de la BD, et va être un peu le fil rouge de ces aventures et qui donne très 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 envie d'en savoir plus.
Ça a l'air super.
Il y a combien de tomes
Alors moi j'en ai 3, mais je me demande s'il y en a peut-être récemment un 4e.
Là du coup je me suis fait un petit babelio.com avant d'arriver et a priori ils en parlaient de 3.
Ouais.
Et on va t'appeler ouais. Google. Hein, si
non continues. Justement j'aime pas Google, je boycotte. Il y a plein d'autres moteurs de recherche. Ouais. Non justement t'as des moteurs de recherche qui plantent les arbres à chaque recherche.
J'ai vu ça ouais.
Voilà donc.
C'est mon collègue
c'est Rabi qui a lancé ça il y a pas longtemps non.
Ah peut-être.
Il a des trucs cool. Oui j'ai vu qu'il avait lancé un moteur.
Non j'ai pas le nom en tête. Il y a Lilo pour qui récupère des gouttes d'eau en fait à chaque
ça,
fois Lilo et il y en a un autre Ecosia pour les arbres.
Peut-on laisser parler Pauline sur ce livre?
Et ben en fait moi plus que de mettre bon, j'ai mis des choses qui m'ont plu mais j'ai essayé de trouver aussi des choses qui plairaient à peu près à tout le monde et du coup celui-là je l'ai choisi parce que justement je pense que c'est quelque chose qui est à faire découvrir. L'histoire est belle, bon, c'est une chouette histoire, on a envie d'en savoir plus, on a envie de connaître la suite. Je trouve que c'est une édition qui est très jolie en plus, j'aime beaucoup les univers de Stéphane Wuhl.
W-U-L.
Wuhl.
Je trouve que c'est très très beau et c'était plus dans le but de faire découvrir plus que de partager un coup de cœur, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. C'est pas ma BD ou mon livre préféré, mais pas. Je voulais quelque chose qui plaît aux autres.
C'était le but de cette émission, ce que n'a pas compris Valérie.
Oh, mais, tu plaisantes.
Merci Pauline.
C'est pas sympa.
Non, en plus j'ai adoré Roberto Zucco.
Tu vas nous le mettre en scène, ça va être cool.
C'est ça. S'il y a une chose à retenir de cette émission, c'est que Pauline aime les livres gais et joyeux.
Oui, ça fait du bien.
On rappellera pour les prochaines. Sauf que comme tu as perdu, tu seras la dernière à choisir, donc tu auras encore un
pavé horrible.
Un pavé horrible et triste, mais bon, on en parlera dans 2 semaines. Ça sera sur quelle émission?
Canada-Québec dans 2 semaines.
Moi, je suis pas là la semaine du 22 mai.
On ne devait pas faire la Yougoslavie?
Alors, on fait l'Europe de l'Est, mais dans 4 semaines, en fait. On règle nos agendas en privé. Et
on
en
vous
tout cas,
retrouve.
La prochaine fois, ce sera Québec-Canada.
Allez,
tabernacle.
On mettra les moufles, le sirop d'érable. Et
les raquettes.
Et les raquettes, et on revient. Merci beaucoup d'être resté à l'écoute de cette émission qui a duré exactement presque 2 heures. Mais on est là pour ça. En tout cas, c'était une émission chouette et on vous retrouve bientôt. Ciao.
Votez bien. Salut.
Au revoir.
La lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.